Ah ben, deuxième moitié d'heure de Aime l'été. Alors, merci d'être avec nous. Et puis, Nathalie, un autre beau sujet, Élie Marchand, un auteur très prolifique.
Ah, oui, oui,
et je pense
oui.
même qu'on va tâcher de le recevoir de nouveau parce qu'on on a
on veut continuer à jaser.
Oui, ah, c'est oui, intéressant, c'était... le théâtre jeunesse aussi.
Vraiment
alors,
intéressant.
Oui, très
donc,
intéressant.
On va l'avoir à nouveau.
Tout à fait. Alors là, cette fois-ci, on va parler à Marie Ouzeau, qui est directrice générale de Gris Montréal, et qui est un organisme communautaire à but non lucratif hein, qui démystifie les orientations sexuelles et les identités de genre. Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez bien?
Très bien, oui.
J'étais très heureuse de vous accueillir parce que finalement, ben, vous savez, on a besoin aussi de parler. On utilise régulièrement du vocabulaire et je pense qu'avec vous, on va pouvoir faire du chemin aussi pour notre petit lexique et puis de démystifier plein de choses. Alors, oui, parlez-nous de votre organisme Gris Montréal.
Alors oui, donc le Gris Montréal, Gris qui veut dire en fait groupe de recherche et d'intervention sociale, hein, c'est un organisme qui a été fondé il y a près de 30 ans déjà et dont la mission en fait est de démystifier tout ce qui tourne autour de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, principalement dans les écoles auprès des jeunes. Donc, instaurer un dialogue, en fait, avec les jeunes, qu'ils soient eux-mêmes concernés par ces questions directement ou pas, par le truchement, en fait, du témoignage. Donc, j'ai le bonheur de travailler avec 250 bénévoles qui parcourent les écoles de la grande région de Montréal pour répondre aux questions des jeunes.
C'est ça, parce que vous en avez beaucoup de questions, j'imagine, hein, des jeunes. Tout de même, dans les écoles, c'est une belle façon de joindre ces jeunes-là. Et puis, finalement, il y a plein d'interventions aussi que vous faites dans le milieu scolaire.
Oui, 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 tout à fait. Hein. Donc, on va finalement, sur une année scolaire, rencontrer près de 30 000 jeunes. 1200, on appelle ça des interventions,
ce oui,
sont des
c'est
ateliers.
Ça. Hein. C'est
donc,
pour ça que j'allais dire un millier d'interventions, c'est quand même assez impressionnant, là.
Oui, oui, tout à fait. Alors, et encore, si on avait plus de bénévoles, je pense qu'on pourrait en faire plus.
Exactement. Donc, et puis, bon, parlez-nous de cette diversité sexuelle. Comment on s'y retrouve finalement? Bien sûr, quand on est confronté, on entend beaucoup parler maintenant dans les médias de plus en plus, mais évidemment, je regardais juste le lexique, le vocabulaire. Finalement, on s'y perd un peu. Honnêtement.
Oui, c'est vrai, ça peut, quand on n'est pas habitué à travailler avec ces mots-là, c'est vrai qu'on peut s'y perdre un peu, mais je pense que avant de rentrer dans des définitions, je pense que ce qui est intéressant, c'est simplement d'avoir une posture, en fait, c'est de travailler notre posture d'ouverture sur des identités qui sont différentes des nôtres. Et puis après, bon, ben, la compréhension de tel ou tel mot, ça peut se faire dans un deuxième temps, mais en fait, ces mots-là vont, comme tous les mots de la langue française, de toute façon, évoluer aussi, hein.
Oui,
et parfois,
oui.
on peut avoir des mots qui sont utilisés par des personnes différentes et qui les utilisent avec des significations qui sont parfois un peu différentes aussi. Et c'est la même chose pour le vocabulaire qui est lié à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Donc, je pense qu'avant de vouloir nous transformer nous-mêmes en une espèce de dictionnaire de tous ces mots-là et de connaître des définitions par cœur, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'être à l'écoute de l'autre et vraiment, de, quand on entend ces mots-là et que quelqu'un s'identifie grâce à ces mots-là, de lui demander, bon, mais d'accord, et qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait? Et là, on aura vraiment la possibilité d'être sur la même longueur d'onde et de comprendre ce que la personne cherche à nous transmettre comme information avec ce mot en particulier.
Mais est-ce que je me trompe, ou on va se le dire, on est en 2024 et je trouve que le vocabulaire évolue très rapidement.
Mm-hmm.
J'en
mm-hmm.
perds des bouts. Et pourtant, je me tiens formée. C'est un...
Oui.
Ouais, je ne le suis pas, le vocabulaire. J'y arrive pas.
Oui.
Oui, d'autant plus qu'on a des enfants aussi, et puis on veut être quand même à l'affût, on veut bien faire les choses aussi. Et parfois, on a l'impression d'être maladroit.
Ben c'est tout à votre honneur de vouloir bien faire les choses, bien entendu, mais je crois que c'est important de se rappeler que c'est quand même une réalité, une communauté qui est dont la place dans l'espace public, je dirais, est assez récente. Hein? Si on regarde ça à la lumière des dernières années, il y a 50 ans, on parlait pas du tout de ces questions-là. C'est peut-être qu'il y a plus de 10 ans, on va dire, surtout par rapport aux questions d'identité de genre, hein, où le vocabulaire se développe, en fait. ce sont des communautés qui apprennent à se dire aussi d'une certaine façon, donc le vocabulaire se développe, se raffine, les identités se raffinent aussi. Je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça bien que les jeunes et moins jeunes puissent trouver des mots qui vont représenter exactement ce qu'ils ressentent. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde autour doit connaître tous ces mots-là et en comprendre tout de suite tout le sens et toutes les nuances? Pas forcément, mais encore une fois, c'est une question d'ouverture et d'écoute et puis d'évoluer ensemble.
Oui, d'accord. Souvent, je vous pose une question là parce que des fois dans mon entourage, il y a des gens qui me posent aussi la question. Évidemment, nous, ici à Canal M, on a déjà une mission, alors on est peut-être plus sensibilisés. Mais évidemment, des fois, on a l'impression que finalement, bon, il y a l'identité de genre, mais aussi on sent parfois que c'est très, très... on cherche à décortiquer dans les moindres détails notre orientation sexuelle, le fait de ne pas avoir de sexualité est en soi une orientation sexuelle. Enfin, on ne sait plus trop démêler. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à bien communiquer auprès des jeunes? Est-ce qu'eux arrivent à voir la différence?
Bon, je pense que oui. Je pense qu'il y a une curiosité de leur part. Je pense aussi que les jeunes ont besoin de modèles. Les jeunes ressentent des choses. Hein. Les jeunes construisent leur identité. Donc, ils sont avides, en fait, de voir, OK, ben justement, quels sont les possibles, à quoi j'ai accès. Donc, je crois que de présenter cette diversité-là dans toutes, encore une fois, ces nuances, ça ne peut que les aider à se comprendre parce que en fait, on a souvent des jeunes adultes ou des adultes moins jeunes qui vont nous dire, mais j'ai toujours ressenti quelque chose, mais j'avais pas les mots pour le dire. Et puis, j'ai rencontré telle ou telle personne qui m'a dit qu'elle s'identifiait de telle façon, qui m'a expliqué ce que ça signifiait pour elle et ça a immédiatement résonné en moi. Donc, si on peut reproduire ça avec des jeunes qui sont justement à l'âge où ils se questionnent, où ils ressentent, plutôt que d'attendre 30 ou 40 ans plus tard, je crois que ce sont des bonnes choses à mettre en place.
Est-ce que vous faites en même temps une éducation aux parents à travers ça?
Alors, c'est sûr que l'éducation aux parents se fait par ricochet, c'est-à-dire que les jeunes rentrent chez eux et vont parler de l'intervention qu'ils ont eue avec les bénévoles du GRI. On aimerait beaucoup avoir accès aux parents de façon directe, mais évidemment, l'expérience nous a montré que quand on organise des ateliers pour les parents, vont se présenter les parents qui sont déjà sensibilisés, qui ont juste envie d'en apprendre un petit peu plus, et ceux qui gagneraient à... disons, avoir une conversation plus en profondeur, malheureusement, ne viennent pas, hein, puisqu'il n'y a pas de présence obligatoire. Contrairement aux ateliers qu'on fait en classe, où on va s'adresser à l'ensemble du groupe et où tout le monde assistera à l'atelier. Donc, on aimerait ça, leur parler plus souvent aux parents, mais on compte quand même sur les jeunes pour ramener l'information à la maison.
Oui, parce qu'évidemment, on a toujours parlé d'homophobie, de transphobie, enfin, mais il y a tellement autre chose maintenant, parce que, bon, Montréal, d'abord, j'imagine que ça fait référence aussi, on parle de gris sexuel, asexualité grise, enfin, il y a toutes des terminologies, enfin, tout un lexique aussi particulier. D'ailleurs, gris sexuel, c'est, bon, vous pouvez un peu m'en parler, un exemple à donner.
Alors, c'est amusant que vous disiez ça parce qu'en fait, non, notre nom à nous n'a rien à voir.
N'a rien à voir, OK.
Non, voilà, parce que c'est vraiment un acronyme qui veut dire groupe de recherche.
Ah ben oui, c'est vrai, sociale, tout à fait, vous avez raison.
Et qui a, donc, comme je vous disais tout à l'heure, près de 30 ans. Et à l'époque, on ne parlait pas de gré sexuel ni de d'autres identités qui tournaient autour du mot gris. Est-ce que vous m'entendez encore?
Oui, vous entends très bien. Oui. Très bien. D'ailleurs, je vous ai présenté au tout début de l'émission, l'acronyme, en fait, je l'ai effectivement exposé très clairement, mais c'est vrai que indirectement, oui, ça n'a rien à voir, mais c'est ça. Mais ça m'a fait penser tout de suite à gris sexuel parce que je le voyais
dans
le lexique. Bon.
Mais justement, dans les terminologies, les acronymes, là aussi, on s'y perd. Alors, moi, j'ai des gens autour de moi qui sont un peu plus âgés et qui n'y comprennent rien parce que si on va sur le site de Jeunesse J'écoute, le gouvernement du Canada, les YMCA, Gris Montréal, on retrouve différentes terminologies. Il y a LGBTQ2+, il y a LGBTQQIP2SAA, etc. Comment on s'y retrouve et qu'est-ce qui est la vraie affaire?
Ben, écoutez, on parle d'identité humaine. Alors, c'est sûr que je crois qu'il n'y a pas de réponse où on pourra dire c'est celle-là et mm-hmm. c'est l'unique bonne réponse. Hein. Okay. Donc, chacun va y aller, en fait, avec sa vision, ce qui est important, parce qu'en fait, évidemment, on communique, hein, on utilise des mots. Alors, on choisit certains mots par rapport à ce qui nous rejoint le plus. Donc, c'est la même chose avec l'acronyme. Mm-hmm. Pour certaines personnes, ça va être très important d'utiliser l'acronyme, je dirais, le plus détaillé possible pour mettre en valeur toutes les identités. Alors mm-hmm. là, vous allez avoir le nombre le plus long de lettres qui vont se suivre. Pour d'autres personnes, ça va être important simplement de signifier qu'on va parler d'orientation sexuelle et d'identité de genre et mm-hmm. ils vont se contenter, entre guillemets, de LGBTQ et peut-être mettre un plus à la fin pour inclure les autres identités.
Oui, bien sûr, d'autres identités.
Mais moi, j'aurais envie de... Le message que j'aurais envie de passer, en fait, c'est de simplement être cohérent.
Ouvert.
Avec, mm-hmm. Oui, ouvert, bien sûr, mais être cohérent avec ce dont on parle. Par exemple, ne pas utiliser un acronyme de façon automatique, mm-hmm. alors qu'en fait, le sujet qu'on aborde ne concerne pas toutes les personnes qui sont reprises dans cet acronyme-là. Je vous donne un exemple. Quand on utilise LGBTQI, mm-hmm. ah, etc., oui. J'insiste sur le I, donc qui parle des personnes intersexes, par exemple, eh bien, si le sujet que vous allez aborder ou si le texte que vous écrivez ou les données que vous partagez ne prennent pas du tout en compte les personnes intersexes, alors quel est l'intérêt d'utiliser un acronyme qui le comprend? Mm-hmm. Donc, je pense que c'est une base de réflexion qui est assez intéressante au moment où on choisit l'acronyme. Et encore une fois, comme je disais tantôt, il n'y a pas de réponse parfaite. Je pense que simplement, il faut regarder quels sont les objectifs qu'on a et de quoi on parle. Et ça peut nous aider à ce moment-là à choisir le bon acronyme. Et pour les personnes un peu plus âgées dont vous parlez oui. tout à l'heure, je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à retenir. C'est qu'il y a des mots qui font référence à l'orientation sexuelle. Mm-hmm, mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment envers qui on est attiré, qui est susceptible de créer chez nous une attirance romantique, affective, sexuelle. Donc ça, c'est des mots qu'on connaît quand même assez bien, hein, qui tournent autour de gay, lesbienne, bisexuel, pansexuel, etc. Mm-hmm. Et puis, il y a d'autres mots qui vont parler plus d'identité de genre. Donc ça, c'est vraiment un sentiment intime et profond d'appartenir à un groupe genré, donc homme, femme, un peu des deux, ni l'un ni l'autre. Et c'est là qu'on va avoir les mots qui vont plus être de l'ordre de personne trans, personne non binaire. Donc c'est le fameux mm-hmm. T dans le LGBT. Donc ces deux notions-là sont différentes, en fait. Et une personne peut parler de son orientation sexuelle indépendamment de son identité de genre et vice-versa. Donc moi, si je vous communique sur mon orientation sexuelle, ça ne vous donne aucun indice sur mon identité de genre et vice-versa.
C'est vrai. Ouais.
Donc ces deux groupes-là, c'est important ouais. de comprendre qu'ils sont différents mm-hmm. Et qu'ils sont indépendants. Ce sont deux identités qui sont indépendantes les unes des autres. Et je pense que déjà, si on maîtrise ces questions-là, on fait déjà un bon pas en avant.
Mais je suis quand même persuadée qu'on ne choque pas. Pour avoir autour de moi des gens de différentes identités de genre, on ne blesse pas. Généralement, ces gens-là ne se sentent pas blessés par notre ignorance.
Mm-hmm, mm-hmm. Non, effectivement, tout à l'heure, quand ça se fait dans l'ouverture et puis dans la curiosité bienveillante, je mm-hmm. dirais, bien sûr, on va expliquer qui on est et, mm-hmm. et même pourquoi on a choisi tel ou tel autre mot. Hein. Moi, je me souviens, j'ai quand même maintenant un peu plus de 50 ans, je me souviens que dans les années 80-90, on discutait certaines femmes par rapport à leur orientation sexuelle préféraient le mot lesbienne, d'autres mmh. préféraient homosexuel, d'autres ouais. préféraient gay. Et bon, chacune avait sa raison pour ce choix-là. Mmh. Et aucun n'était meilleur que l'autre. Ce sont juste des parcours de vie. Ce sont, comme je disais, ce sont des choix qu'on fait en fonction de ce qui nous parle le plus. Et voilà, donc c'est simplement d'être à l'écoute.
Eh oui, alors d'autres se disent fluides, et, enfin, il y a plein de... Mm-hmm. Mais je pense qu'on peut très bien retrouver, évidemment, tout ce vocabulaire En fait, c'est très bien présenté quand on fait une petite recherche. Là, on peut avoir quand même assez facilement tout ce vocabulaire et peut-être s'ouvrir encore davantage à toutes sortes de réalités différentes, identité de genre, orientation sexuelle, comme vous le dites. Ça a été vraiment très intéressant de partager avec vous toutes ces choses-là, finalement, que l'on ne maîtrise pas toujours, évidemment, quand on est moins concerné. Bon, alors, mais cela dit, c'est vraiment, vous faites évidemment un travail extraordinaire auprès des jeunes, auprès des écoles aussi. Alors, il y a toute cette sensibilisation qui est à faire, bien sûr, et puis une éducation populaire également à faire.
Absolument. Merci beaucoup pour vos bons mots.
On invite les gens aussi à aller sur votre site Gris Montréal pour les gens qui ont besoin d'aide, de conseils. Donc, grismontréal.ca.
Toujours à la recherche de bénévoles, toujours à la recherche de soutien financier, bien entendu, comme n'importe quel organisme communautaire.
Je dis toujours, c'est le nerf de la guerre. Et orienter, vous pouvez orienter quand même les personnes aussi qui en manifestent le besoin vers d'autres ressources pertinentes, très importantes.
Exactement. Nous ne faisons pas d'intervention individuelle, mais nous faisons de la référence. Oui, tout à fait.
Un gros merci, Marie Ouzeau. Ça a été
un plaisir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.